À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogoubani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Quelle est l'importance de l'éducation financière? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien. Vous savez, parler de l'argent semble être un sujet tabou dans la culture congolaise. On parle de tout, mais on n'est pas à l'aise de parler des enjeux financiers personnels avec un membre de son entourage. Et pourtant, de nombreuses personnes sont criblées des dettes, ne savent pas épargner et éprouvent des difficultés à gérer leur argent. Bref, elles ont des mauvaises habitudes financières. Alors, quelle est l'importance de l'éducation financière? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec Monsieur Ricardo Kanyama. Il est coach en succès financier et coordonnateur d'un centre de coaching financier qui s'appelle ISTC. Monsieur Ricardo Kanyama, encore une fois, bonjour.
Bonjour, c'est jeudi.
Alors, nous parlons de l'éducation financière. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on parle un peu de tout, mais l'argent, les gens n'aiment pas trop en parler. C'est comme un tabou, hein. Culturel. Pourquoi?
Ce qui est même étonnant, alors que le plus grand problème auquel est confronté notre pays, c'est le problème de pauvreté, n'est-ce pas? La pauvreté, c'est donc l'absence de la richesse, donc c'est l'absence de l'argent, disons. Et ça vient aussi du fait que c'était une question vraiment négligée. Mm-hmm. Et ça vient donc de notre éducation. On nous a pas éduqués à l'importance de l'argent. L'argent a toujours été perçu culturellement comme un danger, comme une antivaleur, comme quelque chose qui t'empêche d'aller au ciel et de se réaliser, alors que l'argent joue un rôle très capital dans la vie d'une personne aujourd'hui.
Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'éducation financière. En quoi est-ce que cette éducation est-elle importante, Monsieur Ricardo?
L'éducation financière est très importante parce qu'elle nous permet d'acquérir les compétences et les capacités pour résoudre les problèmes d'argent, notamment les problèmes de pauvreté sur le plan personnel ou sur le plan communautaire.
Mmh.
Voilà.
Et comment est-ce que ça doit se faire?
L'éducation financière, c'est comme toute autre éducation, non? Je vous donne un exemple précis.
Oui.
Imaginez que vous êtes licencié dans un domaine dont vous avez les compétences techniques et professionnelles dans ce domaine donné, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Mais cela ne veut pas dire que vous avez les compétences dans tous les autres domaines. Alors, si vous achetez une voiture et que vous n'avez jamais eu une éducation, une instruction sur comment bien vivre avec une voiture, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Et la voiture est accompagnée d'un, comment on appelle, manuel d'instruction, et vous n'avez jamais le temps de lire votre manuel d'instruction ou de demander à un spécialiste dans ce domaine, vous arrivez avec votre voiture à la station et on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez mettre dans, quel combustible vous utilisez. Alors, vous ne savez pas si c'est l'essence ou le mazout, et vous dites, voilà, c'est l'essence, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
On vous fait les pleins, et quelques minutes après, votre voiture s'arrête en cours de route, et vous vous rendez compte qu'au lieu du mazout,
vous avez mis de l'essence,
n'est-ce pas? Donc, votre ignorance est source de beaucoup de problèmes. Vous pouvez même détruire votre voiture, ou vous pouvez perdre beaucoup d'argent que vous avez investi dans l'achat de votre voiture, tout simplement parce que il vous a manqué l'instruction ou l'éducation dans le domaine de la bonne utilisation de la voiture. La même chose, si vous n'avez jamais appris, vous n'avez jamais été instruit sur le plan financier, comment avoir l'argent, comment vivre avec l'argent pour sortir de la pauvreté, vous serez incapable de résoudre votre problème de la pauvreté. C'est justement la cause pour laquelle aujourd'hui 80 millions de personnes vivent en RDC, parce qu'ils sont professionnellement très instruits et ils sont financièrement ignorants, et cela nous a conduit à la pauvreté qui assomme notre pays.
Quels sont les problèmes d'argent auxquels les gens sont butés régulièrement?
Je pense que le premier problème, c'est d'abord la compréhension. Les gens ne comprennent pas beaucoup c'est quoi l'argent. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'argent. Les gens ne savent pas établir si c'est une bonne chose et quels sont les choix, les décisions et les actions pour pouvoir se prendre en charge. Nous vivons dans un monde qui est géré par une loi, c'est la loi des échanges, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Dans la loi des échanges, il n'y a rien pour rien. Tu dois donner quelque chose en contrepartie de ce que tu veux obtenir.
Mm-hmm.
Si tu vas dans un supermarché, il te faut certainement donner de l'argent pour prendre les produits. Si tu veux poser une femme, il faut donner la dot.
La dot, et, oui.
Voilà. Mais comment faire pour avoir l'argent dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins? C'est que, cette question n'a jamais été répondue.
Bon, on nous dit souvent, il faut aller à l'école, il faut étudier, et puis après vous devenez licencié, et après vous allez chercher un emploi.
Justement, parce que ces gens qui répondent, ils n'ont jamais eu des réponses à ces questions. Parce que la question de comment avoir beaucoup d'argent, c'est une question à laquelle beaucoup de gens n'ont jamais eu des réponses. Je vous donne un exemple. Si vous regardez dans votre répertoire téléphonique, si vous avez 100 numéros et que vous avez un problème d'urgence parce que vous êtes malade, il vous faut 10 000 dollars d'urgence, vous pouvez appeler le 100 numéros, personne ne vous donnera. Pourquoi tous ils ont des problèmes d'argent? Oui. C'est parce que tous ils n'ont jamais eu le temps de prendre au sérieux la vie financière, et c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'éducation financière qui leur permet non seulement de travailler, mais de bien vivre avec leur argent pour créer plus de richesses. Donc c'est la base dans la création de la richesse. Je pense que l'éducation financière, c'est même la stratégie et la solution idéale pour le développement d'une personne ou le développement d'une société. Voici donc quelque chose que les gens ne connaissent pas. Lorsque vous parlez avec un général de guerre qui connaît l'art de la guerre, il vous dira que la guerre ne se gagne pas toujours avec la force. La guerre se gagne avec la stratégie, n'est-ce pas? La stratégie, c'est l'intelligence et les connaissances. C'est pour ça que le combat contre la pauvreté ne se gagne pas seulement par le travail. Ça se gagne par la connaissance. La stratégie, c'est l'intelligence financière. L'intelligence financière vient de l'éducation financière appropriée. Sinon, au lieu d'agir sur base de connaissances scientifiques, vous allez agir sur base de connaissances populaires. Et les connaissances populaires sont parfois des connaissances qui sont à l'opposé des connaissances scientifiques.
Mais on dit souvent que beaucoup de gens ont des mauvaises habitudes financières. Surtout les pauvres, tout ce qu'ils gagnent, c'est pour la consommation. Tout ce qui entre, il faut dépenser. Tout ce qui entre, il faut dépenser.
Quand ton intelligence n'est pas développée dans un domaine, cette intelligence n'est pas loin de l'intelligence d'un enfant. Pour pouvoir devenir riche, par exemple, il faut pouvoir faire des bons choix. Mais je vous donne un exemple. Si vous amenez votre enfant quelque part dans un concours, un enfant de 4 ans qui n'a jamais appris l'importance de l'argent, on lui présente 100 000 dollars en billets de banque, en billets en dollars, et on lui présente un bon jouet, d'une voiture brillante, qu'est-ce que votre enfant va choisir, monsieur Jody?
Certainement, il prendra les jouets.
Mais pourquoi il prendra les jouets? C'est parce que il n'a pas l'instruction qui lui permet de faire des choix judicieux. Il ne comprendra pas qu'avec les 100 000 dollars, il pourrait payer beaucoup plus qu'un jouet, n'est-ce pas? Et dans tout domaine où l'intelligence d'une personne n'a jamais été développée par une éducation appropriée, cette intelligence reste au niveau de l'intelligence d'un enfant. Ça veut dire, vous et moi aujourd'hui, vous êtes professionnel de médias, je suis professionnel en création de la richesse, mais si on nous met dans les cabines d'un avion, nous deux, nous ne serons pas plus intelligents que nos enfants qui ont 5 ans. Donc, ne vous étonnez pas que beaucoup de gens dans notre société ont cette intelligence financière au niveau d'un enfant. C'est pour cela qu'ils font des choix qui ne sont pas des choix judicieux, et ils font des actions et ils ont des habitudes culturelles qui sont contre les principes fondamentaux de la création de la richesse, dont l'habitude que vous avez parlé, des travail et consommation. Travail et
travailler
consommation.
Et tout consommer.
Et ça, c'est la meilleure manière de rester dans les cycles éternels et infernal de la pauvreté.
Nous avons deux auditeurs en ligne, Jean-Pierre de Lubao et Evelyne Sabidi de Kananga. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question? Monsieur. Nous parlons de l'éducation financière. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les auditeurs de l'OCAPI et l'intervenant du jour.
Oui, allez-y.
D'accord. Moi, ma préoccupation est aussi cet aspect. Oui, il peut arriver que quelqu'un et dans son ménage, presque 14 personnes, donc ses enfants propres. Et alors, il peut aussi arriver qu'à partir de ces enfants-là, les besoins alimentaires, les besoins de l'éducation, les besoins de soins de santé de ces enfants-là, puissent poser déjà des problèmes. Donc, dans ce sens, que ces besoins-là soient déjà supérieurs par rapport à l'avoir de ce monsieur-là, le responsable de sa maison. Alors, quelle est l'éducation que les vitesses peuvent quand même donner à tous ceux qui sont en train de nous suivre, et particulièrement à moi qui ai posé la question, quelle est l'éducation, qu'est-ce que ce monsieur-là peut faire pour garder, ne serait-ce quelque chose dans sa tête? Il peut peut-être payer 50 000 ou 100 000 francs par mois. Mais les 14 enfants qui dirigent dans la maison, dans son foyer, donc imposent par rapport aux besoins de soins, aux besoins de l'éducation à l'école, aux besoins peut-être des loyers à la maison. Alors, qu'est-ce que ce monsieur-là peut faire pour arriver à bien gérer les 100 000 francs qu'il touche par mois?
D'accord, merci Jean-Pierre Deloubao. Evelyne Sabidi, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi qui nous écoutent en ce moment.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, Monsieur Kachama, c'est juste le partage d'expérience. Hein. Quand j'ai suivi notre invité, le sujet est très intéressant. Personnellement, j'ai tenté l'expérience avec les enfants que j'ai à la maison.
Oui.
J'ai un garçon et une fille qui est au CO et une fillette qui est en sixième primaire. Je leur ai dit un jour, je dis, monsieur, je vais te faire fabriquer une caisse, comme il m'a appelé la cabine. Je t'achète un téléphone, je te mets des unités. Au bout d'un temps, tu vas me présenter les intérêts et je te dirai quoi. À la grande fille et à sa petite, je lui ai dit, ok, je vous procure du maïs, vous allez produire les pop-corn. Les tarots, c'est pour les coca. Alors, vos bénéfices, je vous dirai ce que vous allez faire avec. J'ai mis en jeu un petit capital. Ils ont commencé. Fort malheureusement, pour le garçon, il a bousillé tout l'argent. Et il est très malin qu'il était. Il faisait comme s'il travaillait alors qu'il n'avait plus rien.
Oui.
Pour les filles, elles ont produit. Chaque fois qu'elles vendaient, et elles me présentaient les petits bénéfices, je leur ai dit, vous placez ça chez Vodacom dans une somme. Après un temps, vous n'aurez plus à me poser le problème des casse-croûtes à l'école et des transports. Et elles ont produit, elles ont travaillé, j'étais derrière. Je suivais chaque activité pour les filles et elles se sont retrouvées, elles ont commencé avec une mesurette de maïs, comme il m'a appelé ici, méga. Et elles se sont retrouvées avec 3 mégas de maïs comme capital. Et elles avaient la facilité d'avoir 500 francs qu'elles pouvaient utiliser à l'école. Je leur ai dit, je n'achèterai plus de sous-vêtements pour vous. Vous, à partir de vos bénéfices, vous allez le faire. Mais avant de le faire, vous m'informez. J'essayais de relâcher. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était une occasion pour elles d'utiliser l'argent comme elles entendaient, tout ça, tout ça.
Oui.
Néanmoins, c'était très positif pour les filles. Elles ont évolué très bien. Mais quand j'ai essayé de relâcher, elles ont utilisé tout l'argent. C'est juste pour vous faire voir que l'éducation financière doit commencer dans la famille. Dans la famille, nous devons éduquer les enfants à produire. Nous devons inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que les parents pensent qu'ils sont éternels enfants et ils sont éternels sur la terre. Non, la mort peut survenir. Cet enfant-là, si elle est déjà éduquée, si c'est une fille, elle est déjà éduquée comme cela, je leur disais ça, je dis, je peux mourir aujourd'hui ou demain. Mais si quelqu'un te voit, il t'accueille chez lui, il sort même 5 000 francs, il te donne. Mais tu vas pas utiliser pour acheter les beignets et les biscuits. Mais non, là, il faut mettre en jeu ce petit capital-là. Tu vas produire, tu te dis, bon, maman m'a fait voir ça, ça, ça. Si je mets en jeu mon petit capital ici, je pourrai avoir des petits bénéfices qui m'aideront plus tard à pouvoir payer, par exemple, les études.
Merci,
c'est
Evelyne.
Déjà quelque chose.
C'est déjà
si,
quelque chose.
Au sein de la famille,
oui.
Nous éduquons les enfants à élever. Vous prévoyez un petit poulailler, là. Vous mettez à la disposition de chaque enfant une poule, soit une canne. Et vous les mettez au service. Et vous les encadrez. Ils sont là, ils voient comment les canards et les poules sont en train d'évoluer, tout ça, tout ça.
D'accord.
Et au moment de la production, vous allez leur dire, ok, chacun prend 2-3 poules, va vendre au marché. Et ils vendent, ils ramènent cet argent-là, vous lui dites, prends cet argent, va payer à l'école. Et ça sera de façon perpétuelle, l'enfant comprendra que je suis à même de produire l'argent.
D'accord.
Je suis à même de me prendre en charge, même en cas de difficulté.
Merci, Evelyne.
Vous avez de l'argent,
oui.
Procurez-vous une ferme. Amenez les enfants chaque week-end dans une ferme.
D'accord.
Que chacun produise une plate-bande. sur laquelle il peut planter les patates douces.
Merci Evelyne, nous comprenons qu'il faut... L'éducation financière commence déjà dans la famille. Mmh. Mohamed Zola, vous êtes en Boujima et Jonas à Kananga. Mohamed Zola, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mohamed?
Oui, j'ai une préoccupation seulement.
Oui, laquelle?
Je demanderai à l'invité pourquoi chaque chose, chaque affaire, chaque opération, pour que cette histoire, si tous puissent marcher, il faut qu'il y ait toujours l'argent. Et qu'il me donne un peu les noms qu'on a donné à cette chose qu'on appelle l'argent.
Merci. Jonas de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Jonas Kabinda de Kananga.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jonas, par rapport à ce sujet?
Oui, vous me permettrez, je voudrais présenter mes voeux les meilleurs à tous les auditeurs de la radiographie.
Oui.
J'ai quelques petites préoccupations avec moi. Mmh. Bon, je voudrais demander à l'invité, bon, peut-on entendre par la bonne éducation financière le fait, par exemple, d'une bonne gestion des finances qu'on possède ou la multiplication de ce qu'on a comme argent à la maison? Et en plus, je voudrais savoir quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en marche ou que nous pouvons mettre sur pied pour initier les tout-petits, les enfants donc, à l'éducation financière, de manière à leur permettre de se prendre efficacement en charge si nous, à présent, nous n'avons pas les notions de bonne éducation financière.
Merci, Jonas de Kananga.
Oui, et pour terminer, je vais aller très rapidement.
Oui.
Je disais, bon, notre pays regorge de beaucoup de professeurs et de juristes en droit économique. Mais à quoi est due l'insuffisance ou pratiquement le manque d'éducation financière dans notre pays? Je vous remercie.
Bien, merci. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Malonga, bonjour. Voilà, on va les retrouver tout à l'heure. Monsieur Ricardo, vous avez la parole.
Voilà, merci beaucoup. On voit que beaucoup de gens sont intéressés par cette problématique de l'éducation financière. Oui, et c'est avec raison parce que notre pays est confronté à un problème de pauvreté, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, l'éducation. La première personne a posé la question disant qu'il a 14 enfants à la maison et comment il devait faire lorsqu'il reçoit 100 000 dollars. Déjà, vous voyez que le fait d'avoir 14 enfants montre que cette personne n'avait pas eu la chance d'avoir l'éducation financière à son enfance. Oui. Il a confondu les mondes traditionnel et le monde moderne. Dans le monde traditionnel, les enfants étaient contributeurs dans la création de la richesse. Ça veut dire, au village, lorsque tu avais 14 enfants, cela signifiait plus de main-d'œuvre
dans les champs,
oui,
à la pêche, à la cueillette.
Donc, plus tu avais d'enfants, plus tu étais riche. Dans le monde moderne, aujourd'hui en ville, plus vous avez d'enfants, plus vous êtes pauvre. Parce que les enfants ne sont que des éternels consommateurs. Un enfant peut commencer à te consommer, 10 jours il va naître jusqu'à 30 ans. N'est-ce pas? Mmh. Alors, quand vous avez eu la décision d'avoir 14 enfants, ça veut dire vous avez démontré votre limite d'intelligence financière.
Un revenu de 100 000 francs.
Avec un revenu de 100 000 francs. Alors, tout ce qu'il devait faire aujourd'hui, c'est chercher comment transformer ces enfants qui sont des consommateurs à devenir des enfants qui contribuent dans la production de quelque chose, en vendant peut-être quelque chose, en faisant les jardins ou en aidant les parents dans ce qu'ils ont fait. Sinon, avec 100 000 francs congolais ou pas seulement lui qui reçoit un salaire de 100 000 francs, mais toute personne qui a un revenu modeste, il ne saura pas prendre en charge 14. Ça, vous voyez, beaucoup des riches
n'ont pas beaucoup d'enfants,
n'ont pas une foule d'enfants, parce qu'ils comprennent que plus vous avez d'enfants, plus vous créez la pauvreté. Oui. Si ces enfants ne parviennent pas à créer la richesse.
Alors, Madame Evelyne de Kalanga nous dit que l'éducation financière doit commencer en famille, dans la famille. C'est ce qu'elle a fait avec ses enfants.
Oui, normalement, l'éducation financière doit se donner en famille, n'est-ce pas? Mmh. On dit que, quand vous lisez les auteurs américains, ils vous disent, vous pouvez étudier dans la meilleure université avec les enfants des riches, vous ne deviendrez jamais riche parce que ce n'est pas à l'école où on apprend comment devenir riche, ils apprennent en famille. Donc, ils ont des parents qui leur apprennent les notions de base, les principes principes pour
de l'épargne,
de l'investissement, des protections, d'entrepreneuriat, des choix et tout ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors, mais les problèmes qui se posent, nos propres parents n'ont pas appris l'éducation financière, parce que l'homme, pour transmettre une connaissance, ça signifie qu'il a appris ça à un moment, n'est-ce pas? Le fait qu'on n'a jamais appris l'éducation financière dans notre système éducatif ou dans notre culture, parce que ça doit être scientifique, l'éducation financière ne se limite pas seulement à l'épargne, c'est tout un domaine qui te permet d'avoir une compréhension sur c'est quoi la richesse, comment l'utiliser et tout. Alors, le parent devait faire un effort d'acquérir des livres sur l'éducation financière pour augmenter d'abord leurs connaissances et après partager avec les enfants, notamment par des exemples comme la dame venait d'expliquer. Ça, c'est un exemple très, très intéressant. C'est déjà quelque chose dans l'éducation financière, mais on peut bien faire plus.
Voilà. Et Jonas de Kananga dit, quand on parle de l'éducation financière, s'agit-il d'une bonne gestion financière ou de comment savoir comment multiplier l'argent?
Non, l'éducation financière englobe tout. Ça englobe la production, la gestion et la multiplication. Il y a une chose, vous devez produire, vous devez être à mesure de produire de l'argent ou des richesses. Vous devez être à mesure de bien utiliser ces richesses de façon à créer plus de richesses. Ou vous devez aussi être à mesure de léguer ces richesses à des générations qui viennent. Donc c'est plus englobant. Ça, c'est une partie de l'éducation financière. Mais l'éducation financière, c'est vraiment l'art de comment créer des richesses, comment obtenir des troupeaux de chèvres à partir d'une seule chèvre, comment devenir riche à partir de faibles revenus.
On va accueillir deux autres auditeurs, Malonga de Bandundville et Kachai de Kanyoka. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jodie, bonjour notre invité.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'éducation financière?
Ok, merci beaucoup. En tout cas, le sujet est très pertinent. Mais ce que moi je vois là, je suis d'accord avec la dame de Boudjimaï là, celui de qui Kananga a parlé que l'éducation financière doit commencer au niveau de la base, donc de la famille. Moi aussi je vais ajouter ceci. Vous savez, je dis, toute éducation émane de la famille. Un enfant d'un cultivateur, en tout cas, il doit connaître vraiment le cultif. Un enfant d'un enseignant, en tout cas, il va bien étudier. Un enfant d'un chauffeur, il doit connaître conduire des autos et d'autres moteurs. Mais ce que je viens d'augmenter pour l'éducation financière, si un enfant est né d'un commerçant, je dis ipso facto, ces enfants-là, ou bien cet enfant-là, doit imiter le domaine de son père. Mais si il y a un enfant de cultivateur, il se trouve dans un niveau vraiment extra-familial. Ça dépend d'un centre d'éducation. C'est pour laquelle je vais demander à l'invité. Est-ce qu'il peut y avoir des centres d'éducation financière? Puisqu'il y a des parents qui ne savent pas éduquer et initier cette éducation financière à leurs enfants. Est-ce qu'il peut y avoir des centres dans toutes les agglomérations pour que les enfants ratés à ces éducations peuvent récupérer dans les centres-là et peuvent aider aussi la société.
Merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour Radio Okapi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup de la parole. Moi, je voulais tout simplement commencer par un exemple par rapport au sujet du jour concernant l'éducation financière. Comment expliquer l'invité par rapport au cas d'un diamantifère qui n'avait pas eu le temps, par exemple, de travailler, d'entreprendre une activité lucrative, mais à peine de commencer à faire le diamant, il a attrapé un gros morceau du diamant, il a vendu, il a eu beaucoup d'argent. Et quelques jours après, vous savez, vous connaissez les comportements des diamantifères, ils ne traînent pas avec l'argent, ils mangent les taux au même moment, avec l'espoir que dans l'avenir, je pourrais attraper d'autres diamants. Alors, après ce diamant-là, il a eu beaucoup d'argent et il utilise les taux au même moment. Et par la suite, il n'a plus d'argent. Il rentre maintenant dans une pauvreté à outrance. Comment l'invité peut aider un monsieur pareil à cultiver l'éducation financière? Comment il peut parvenir à commencer à épargner? Deuxièmement, prenons le cas de fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo.
Oui, Kacha, la communication se détériore. Veuillez vous déplacer peut-être un peu, ça peut s'améliorer.
Oui, alors, maintenant ça va, je pense.
Oui, ça va mieux.
Alors, deuxièmement, c'est le cas des agents et fonctionnaires de l'État. avec les taux actuels, les taux politiques de Nonandé, de 90 francs, j'allais dire. Alors, je ne sais pas comment ces gens-ci, qui ont beaucoup d'enfants d'ailleurs, parce qu'en République démocratique du Congo, les gens mettent au monde comme ils veulent, ils ont beaucoup d'enfants, ils doivent subvenir aux besoins de ces enfants-là. Comment ils peuvent inculquer l'éducation financière dans leurs enfants à telle enseigne que eux, au préalable, n'ont pas vraiment la capacité financière à investir pour la vie ultérieure de leurs enfants. Troisièmement, pour finir, comment il peut l'inviter, quelles astuces qu'il peut donner aux villageois de Kanyoka, par exemple, parce que moi j'ai vu au village, comment les villageois peuvent aussi cultiver cette éducation-là? Comment ils peuvent capitaliser cette éducation-là? Parce qu'au village, il est supposé que la vie est toujours villageoise. Certaines personnes vivent à la manière villageoise toujours. Mais comment on peut aussi faire en sorte que l'éducation financière soit un élément meilleur du village pour la vie au village? Merci beaucoup.
Cette émission est une rediffusion.
Bien. Marcel Boto de Kananga, bonjour.
Marcel.
Oui, quelle est votre question?
Oui, moi je voulais poser un peu à l'invité ceci. Il y a un ami, c'est un tété là, son papa c'est un grand commerçant de la ville. Mm-hmm. Bon, le papa a pris l'argent, il a donné à 5 enfants. Bon, donc il a 5 garçons. Et chaque garçon a quelque chose de capital qu'il a en train de travailler. Maintenant je vois des conséquences, c'est quoi? Tout le monde a les magasins, mais ils ont refusé d'étudier. N'est-ce pas aussi apprendre les enfants l'argent au bas âge, ça peut créer aussi... la faiblesse de l'autre côté, parce que tout le monde n'est plus, même plus étudié. Et maintenant, tout le monde s'est marié comme il veut. Donc, chacun a plus ou moins deux femmes. Alors, je vous dis, c'est un peu terrible là.
Oui. Bon,
ça complique. Et qu'est-ce que l'invité peut parler dans ce sujet-là?
D'accord. D'ailleurs, je reviens sur la question des Kachai par rapport aux diamantifères. Au Kachai, on le voit, il n'a jamais touché beaucoup d'argent. Un jour, il cherche un diamant et il se retrouve avec beaucoup d'argent. C'est la folie. Il se met à épouser plusieurs femmes, à s'acheter. Donc, tout ce qu'il voit, il veut acheter. Au bout d'un moment, il n'a plus rien. Il est pauvre.
Mais c'est pas le problème seulement des diamantaires, c'est le problème de toute personne qui acquiert les richesses sans intelligence financière. Vous pouvez devenir premier ministre, ministre, vous pouvez obtenir beaucoup d'argent. Nous avons vu dans ces pays, beaucoup de gens ont fait des millions par leur position peut-être dans la vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi on finit par devenir pauvre? Parce que lorsque vous lisez un philosophe du succès comme l'américain Napoléon Hill, qui a écrit son livre Incontournable et Réfléchissez et devenir riche, il a très bien dit que l'argent sans l'intelligence financière a aussi peu de valeur que le sable. Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, toute fortune que tu peux obtenir, si ce n'est pas accompagné d'une intelligence financière appropriée, cet argent, vous le perdrez. Et tout travail que les gens qui procurent de l'argent aux gens sans intelligence financière, d'une manière ou d'une autre, ils travaillent pour les riches. Et ils ne sont que des moyens par lesquels l'argent passe pour aller chez les riches.
Mais où trouver cette intelligence financière?
Oui, mais bien sûr, parce que cette intelligence financière était absente. C'est ma contribution. J'ai fait des études là-dedans pour trouver l'importance de l'intelligence financière. J'ai même découvert que l'éducation financière était à la base du développement actuel aux États-Unis. Les États-Unis n'étaient pas toujours le pays le plus puissant économiquement parlant au monde.
Oui.
Mais ils ont eu la chance d'avoir un monsieur qui avait compris c'est quoi les principes de l'éducation financière. Je parle de Benjamin Franklin, l'un des présidents américains qui se trouve sur le fusil des 100 dollars.
Mm-hmm.
Et ce monsieur avait compris que si les États-Unis devaient devenir riches, on devrait apprendre l'éducation financière à toute la population américaine. Et il a réalisé cette éducation financière par des publications qu'il a faites de 1707 à 1790. C'est cette connaissance, quand ces connaissances sont devenues populaires, qui a permis donc...
Au niveau des écoles?
Non, c'était au niveau de la population. À cette époque, il y avait des imprimeries et tout.
Oui.
Parce qu'on peut apprendre de façon formelle ou de façon informelle. Vous savez que même par la télévision, on peut apprendre des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais lui, il a utilisé les médias de son temps pour l'éducation financière de sa population. C'est sur base de ce travail fait que est émergée des classes des riches, et maintenant ces connaissances, cette culture se transmet de génération en génération. Deuxièmement, dans les années 1929, il y a eu la grande crise, l'effondrement du capitalisme, hein, vous savez. Pour lutter contre la crise, cette crise, un Américain appelé George Samuel a écrit un autre livre, L'homme le plus riche de Babylone, qui est un des livres sur l'intelligence et l'éducation financière. comme ils sont dans une société qui lise le banque, le gouvernement et tout le monde a fait la promotion de ces livres qui a été lu par des millions des Américains qui ont obtenu l'intelligence nécessaire pour lutter contre la situation de crise. C'est justement à cause de ça que leur population étant ayant une culture financière élevée est une population où il y a beaucoup plus de riches. Donc, lorsque vous avez, on a prouvé scientifiquement que des sportifs ou beaucoup de gens qui peuvent trouver beaucoup d'argent par leur travail, mais qui n'ont pas l'intelligence financière, finissent par le perdre. Voilà. Mmh. Même la fortune que vous faites aujourd'hui, si vous n'avez pas d'éducation financière, si vos enfants n'ont pas d'éducation financière,
ils vont commencer à épouser plusieurs femmes et demain, ils vont faire des folies.
Voilà, ils les vendront alors que vous ne serez même pas encore enterré.
Et c'est pour cela, Malunga de Bande, on devait demander où trouver des centres d'éducation financière. Parce qu'à l'école, déjà, ces notions, on les donne pas.
Le grand problème, c'est que c'est un problème de prise de conscience. Normalement, on devait avoir une stratégie, une politique nationale de l'éducation financière. Et on devrait avoir un programme d'enseignement d'un cours d'éducation financière dans notre système éducatif. Mm-hmm. Je suis en train de mener les combats, de faire ces plaidoyers pour expliquer au gouvernement et à toute la société que instruire les enfants sur le plan professionnel pendant 18 ans et sans inclure l'éducation financière, nous sommes en train de travailler à perte parce que nous sommes en train de créer des esclaves pour les Indiens ou les autres populations qui ont l'éducation financière, qui auront de l'argent pour venir investir ici. Et en attendant que cela marche, j'ai mis à la disposition de toute la population, à la disposition de toute l'Afrique, un livre appelé La chèvre de ma mère. C'est un condensé essentiel, n'est-ce pas, pour toute personne qui veut apprendre par lui-même l'éducation financière. Donc, le parent peut acquérir les livres, les lire et expliquer à leurs enfants. On ne s'est pas limité là-bas. J'ai créé International Success Training Center, qui est un centre de coaching financier, mm-hmm. et qui donne des modules sur l'éducation financière à toute la population. Et je forme en même temps des acteurs qui, aujourd'hui, à travers la ville de Kinshasa, à travers la République démocratique du Congo et l'Angola déjà, commencent à enseigner des notions d'éducation financière à d'autres personnes. Notre objectif, c'est qu'on puisse avoir
des centres un peu partout, à travers les 26 provinces.
J'espère que les personnes qui comprennent l'importance de l'éducation financière vont se joindre à ces combats pour être formées afin qu'eux aussi deviennent formateurs d'autres personnes. Mmh. Et nous espérons qu'il y ait des communautés, des associations, des ONG qui travaillent pour l'encadrement des personnes nécessiteuses pour la sortie de la pauvreté, comprendront l'importance de l'éducation financière et ajouteront cette connaissance supplémentaire indispensable pour sortir de la pauvreté.
Voilà. Kachai nous dit, prenez le cas d'un fonctionnaire de l'État. Il ne dépend que de son salaire que le gouvernement lui donne. Si le gouvernement ne donne rien, c'est fini, il en souffre. Alors comment voulez-vous qu'une telle personne puisse inculquer à ses enfants les notions de l'éducation financière?
Évidemment, si vous n'êtes pas capable d'inculquer à vos enfants les notions de l'éducation financière, envoyez les enfants auprès des personnes qui sont capables de les faire. Moi, je donne un exemple. Je suis né de parents qui ne savaient ni lire ni écrire et ils m'ont envoyé à l'école pour que là, à l'école, les gens qui savent lire et écrire m'apprennent. C'est pas un parent de tout apprendre à un enfant. Mais un parent, s'il reconnaît les limites, il doit identifier où amener son enfant pour apprendre ce dont il a besoin. Si toi, tu ne parles pas l'anglais, tu as besoin d'apprendre l'anglais à tes enfants, tu l'inscris dans un centre d'anglais. Mm-hmm. Et si tu as compris les conséquences des manques de l'éducation financière et tu veux que tes enfants soient outillés pour lutter efficacement contre la pauvreté grâce à l'intelligence financière, c'est à toi de prendre la décision d'acquérir pour tes enfants les livres ou de les amener dans un centre spécialisé pour l'éducation financière.
Marcel Dekananga nous dit qu'il connaît un commerçant là-bas qui a 5 enfants et il a donné de l'argent à chaque enfant et des magasins et ses enfants ne veulent plus étudier parce qu'ils ont l'argent et ils se sont mis à épouser chacun 2-3 femmes.
Ça c'est un cas triste. Bon, d'un côté, je félicite ce monsieur qui a compris qu'il est commerçant et il a demandé à ses enfants d'être commerçant parce que comprenez que le commerce, la vente, l'entrepreneuriat, c'est le moyen approprié pour devenir riche, n'est-ce pas? Ce qui est triste, ce sont des gens qui sont des commerçants, qui étaient des entrepreneurs et qui ont dit à leurs enfants, vous ne choisissez pas le commerce, vous devez aller étudier pour devenir des professionnels, non, pour devenir des employés, ingénieurs, médecins ou avocats, je ne sais pas si vous voyez. Mmh. Ok, donc d'un côté, il a bien fait. Je pense que nous devrions encourager les enfants à choisir l'entrepreneuriat, à choisir la vente, à choisir des domaines comme le commerce, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, nous devons savoir que si leur intelligence est limitée, ils ne seront pas allés plus loin dans la vie. Vous voyez, ces enfants n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas compris que pour un commerçant épouser beaucoup de femmes, c'est créer de la pauvreté. Ces enfants seront limités parce que malgré qu'ils ont des magasins aujourd'hui, demain, ils ne sauront pas faire face au changement, ils ne sauront pas faire face à la concurrence, donc ils n'iront pas loin dans la vie. Je pense que ces papas-là devraient associer au travail de ces enfants une bonne éducation. D'abord, l'éducation générale, mais surtout peut-être l'éducation financière ou l'éducation dans les affaires.
Voilà, nous allons accueillir Danny Kwamba de Mbujima et Paulin Poutou de Kananga. Il n'y a que les gens de Mbujima et de Kananga qui appellent aujourd'hui.
Vous savez gens de Mbujima appellent beaucoup parce que le Mbujima, c'est une des provinces qui a l'avantage. Ils ont déjà compris l'importance de la richesse. Ils ont vu les gens qui ont eu les diamants et qui sont devenus riches, n'est-ce pas? Vous verrez que les gens d'autres provinces n'appelleront pas parce que chez eux, là-bas, ils ont encore la barrière culturelle comme quoi la richesse est un danger. On n'a pas besoin. Ils ne sont même pas intéressés à la richesse. Ils attendent. Quand on parle de la richesse, ils attendent seulement que les gouvernements viennent leur donner. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont capables de produire de la richesse. Donc, bravo, bravo à Mbujima.
Mbujima et Kananga, mais les gens de, nous invitons aussi ceux qui sont à Kindu, qui sont à Kisangani,
même
qui sont
à Lubumbashi, à Kolwezi.
Ouais, à Kolwezi, oui, partout ailleurs.
Voilà. Le Congo deviendra riche lorsque chaque Congolais pourra devenir riche. Donc, nous devons agir sur chaque individu.
Et pour être riche, il faut d'abord être riche mentalement.
Il faut d'abord être riche mentalement parce que la pauvreté matérielle n'est qu'une conséquence de la pauvreté mentale. Si tes connaissances sont limitées, tes avoirs aussi seront limités parce que ton action sera limitée.
Danny Kwamba, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, mes auditeurs, bonjour l'invité aussi aux auditeurs de la
radio. Quelle est votre préoccupation par rapport à l'éducation financière?
Merci beaucoup. Le sujet est très pertinent. Je prends même l'idée de madame Evelyne Diatien de Kananga. Nous avons des enfants à la maison. Non, les enfants sont là, ils étudient. Ils font une chose, ils obtiennent même des pourcentages.
Oui, Dani, vous sortez entrecoupé. Déplacez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Peut-être que ça va.
Ça va bien.
Oui, allez-y, oui.
Oui, je pense sur ce que maman Evelyne de Kananga a dit.
Oui.
Parce que l'éducation financière, ça ne va pas commencer dans le ménage. Si ça commence pas dans les familles, c'est compliqué aujourd'hui. Parce que nous avons des enfants. Quand on dit que les enfants vont les exposer à l'arrière, les enfants ne vont pas être jeunes. Dit, c'est faux. Nous avons des enfants qui ont des directs d'activité, ou une activité, qui à la maison. Les enfants sont là, ils vont les matins pour les
calculs. Non, Dani, désolé. Désolé, il y a vraiment des soucis au niveau de la liaison téléphonique. On vous entend, vous sortez entrecoupé. Je veux vous retrouver plus tard, le temps d'accueillir Paulin Poutou des Kananga. Bonjour, Paulin.
Bonjour, monsieur Jérôme Kachama. Bonjour à l'invité aussi, à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Paulin.
Oui, en économie, nous disons, consommer c'est bien, mais produire c'est mieux. Vraiment, c'est très déplorable ce qui se passe, surtout ici, dans l'espace Kassai. Aussi au Kassai, il y en a un slogan qui dit « Avoir beaucoup d'enfants, c'est une grande richesse ». Mais on ne sait pas, avoir beaucoup d'enfants, on ne fait pas une étude ou une analyse par rapport aux moyens financiers qu'on a. Donc c'est un problème. À des fois aussi, le gouvernement n'a pas mis une bonne politique ou stratégie pour en permettre à tout le monde d'être sur l'équilibre financier. Donc, vous trouverez un papa qui a plus ou moins 15 enfants, mais qui a un salaire de 80 000 francs. Mais il faut voir même l'état de santé de ces enfants-là. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il y a aussi un auteur qui a dit, un économiste qui a dit avoir une force de main d'œuvre. Ça a une influence positive par rapport à l'évolution de l'économie. Ça peut booster l'économie parce que quand on a une main forte, une main d'œuvre forte, ça peut permettre à ce que la production, le niveau de la production puisse augmenter. Mais dans des familles où il y a beaucoup de gens qui ne font absolument rien, comment cette famille peut progresser? C'est une chose qui freine beaucoup plus l'avancement de certains foyers. Non seulement cela, il y a des papas qui possèdent beaucoup d'argent, alors, et aussi beaucoup d'enfants, mais qui ne veulent pas faire de sorte que leurs enfants puissent aussi être sur le même, sur le même chemin en train de progresser ou soit faire de sorte que le niveau de l'économie de leur foyer puisse progresser. Donc la politique de dépendance financière, il faut que tout le monde de ma famille et il faut que tous mes enfants puissent dépendre chez moi. Quand un enfant a besoin de telle chose, il faut qu'il m'appelle. Quand un enfant a besoin peut-être de telle ou telle chose, il faut qu'il m'appelle. Ça détruit beaucoup plus le niveau de l'économie de notre pays.
D'accord.
Je voudrais me demander à l'invité.
Oui, rapidement.
Quel genre de conseil qui peut donner à l'État congolais de voir, être, en fait, de mettre une nouvelle disposition pour permettre aux gens qui ont beaucoup d'enfants de progresser beaucoup plus et surtout de savoir comment gérer leurs finances des foyers.
Merci beaucoup, Monsieur Ricardo Kanyama, vous avez la parole.
Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Ce sont des questions très 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 intéressantes. Mmh. Alors voici ce que je vais dire. Une chose est d'initier les enfants aux activités de survie. C'est vrai, ça va développer leur réflexe de la richesse de se battre dans la vie. Mais une autre chose est de développer leur intelligence financière. Parce que si vous vous mettez dans des activités de survie sans intelligence financière, vous risquerez de rester à ce stade toute votre vie. Si des millions de gens sont dans les débrouillages dans notre pays, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés très loin au niveau de leur intelligence financière. Voici donc, il a parlé des économistes. Il y a deux choses en fait dans la vie.
Parfois, sans vous couper, c'est étonnant. Quand on voit les commerçants, les expatriés, les Chinois, les Indiens arriver chez nous, ils se mettent à développer des activités. Au bout d'un moment, ils engagent même les Congolais. Alors que nous-mêmes, Congolais, on est là, mais on ne sait pas créer ces richesses.
Justement parce qu'il y a une formule simple du succès qui dit que c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité qu'il y a succès, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ici, nous avons les opportunités. Mais nous avons un peuple qui n'a jamais été, préparé, n'est-ce pas? Alors, ce peuple vit comme des consommateurs, donc on donne plus d'importance
à la consommation
qu'à l'investissement. C'est difficile aujourd'hui. Si vous allez en Europe, un Africain, par exemple, un Congolais à 3 500 $, il préférera équiper sa maison et
s'acheter des vêtements qui coûtent cher
mm-hmm. et aller chercher l'emploi ailleurs plutôt qu'un Asiatique. Quand il a 3 500 $, il va préférer commencer une activité économique pour devenir indépendant et pour croître. Ça vient d'où? Ça vient d'une programmation, ça vient d'une culture qu'on nous a inculquée. Et vous devez savoir que la différence entre riche et pauvre, c'est d'abord au niveau de la culture, c'est au niveau de la façon de penser, au niveau de la compréhension, au niveau de la culture. Alors, notre population souffre donc de l'absence de cette culture financière. Et cela a des conséquences à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau étatique, mais au niveau des gouvernements. Beaucoup de gens qui nous dirigent n'ont aucune notion sur l'éducation financière. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui occupent des grandes responsabilités, 5 ans après leur mandat.
À la fin du mandat, ils n'ont plus rien.
Ils se retrouvent dans la pauvreté. Et c'est pour ça que vous voyez même les gens qui ont beaucoup d'argent, tout ce qu'ils font, c'est répéter la même chose à leurs enfants, va à l'école, cherche un travail. Et quand les enfants sont bien formés, ils peuvent être formés en Afrique du Sud, en Russie et partout, ils reviennent ici pour chercher l'emploi parce qu'ils n'ont jamais su d'abord comment produire beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais su comment transformer cet argent en projet et un projet rentable et comment bien gérer, transmettre les richesses de génération en génération. Ça crée la pauvreté actuelle, mais je pense que ce débat a été soulevé pour que nous puissions prendre conscience. Mmh. Et je pense que c'est déjà, on a donné les exemples de quelques personnes, les livres que j'ai écrits sur l'éducation financière, toutes les familles qui l'ont déjà eu sont déjà dans une dynamique de transformation. On m'a donné, je reçois tous les jours des réactions des auditeurs qui disent que moi je n'ai jamais parlé de ma vie et ça fait 10 ans que je travaille, mais après avoir lu les livres de la chef de ma mère, j'ai commencé à épargner. Aujourd'hui j'ai un capital. Mes enfants commencent à épargner, nous avons commencé un investissement. C'est là où nous disons que lorsque cette connaissance atteindra la grande partie de la population, mmh. il y aura une prise de conscience, il y aura un changement mental et il y aura des actions et des résultats qui vont changer.
Alors comment vous joindre ceux-là qui sont intéressés après l'émission de continuer la discussion? Ils peuvent vous appeler à quel numéro?
Oui, pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent consulter le site lachèvre.org. pour il peut entrer à l'internet, chercher les livres La Chèvre de ma mère, mais ils peuvent aussi nous appeler au numéro 085 88 92 563. Je répète, nous le contact de International Success Training Center, 085 88 92 563. Là, vous pouvez non seulement acquérir votre livre sur l'éducation financière, mais vous pouvez avoir une formation spécialisée qui vous permet d'acquérir cette compétence indispensable pour réussir dans la vie financière aujourd'hui. N'oublions pas, il y a une loi très simple que nous devons comprendre aujourd'hui en Afrique, c'est la loi de la sélection naturelle. La sélection naturelle dit que lorsqu'il y a évolué et que l'environnement change, les êtres qui ne s'adaptent pas disparaissent. Aujourd'hui, il y a une grande évolution. Le succès n'est plus seulement fonction des compétences professionnelles. Donc, vous pouvez avoir un grand diplôme aujourd'hui et rester pauvre. Travailler et rester pauvre.
Ah oui.
Donc, l'intelligence, donc la clé, ce dont vous avez besoin pour s'adapter et ne pas disparaître, c'est l'intelligence financière. Et vous pouvez apprendre l'intelligence financière de façon autodidacte en lisant un livre, ou vous pouvez avoir accès à un cours très limité, mais c'est vraiment la première étape pour combattre efficacement la pauvreté sur le plan personnel et sur le plan communautaire. Merci.
Bien, Monsieur Ricardo Kanyama, coach en succès financier et coordonnateur d'un centre de coaching financier, ISTC. Nous vous disons merci et bon début de semaine.
Je vous remercie.